Chapitre 2. Romy faisait tout ce qu'elle pouvait à vélo. Ça sculptait de belles fesses. Adepte d'urbex, exploration urbaine de lieux abandonnés, elle avait repéré un vieux bateau échoué sur les friches en bord de Seine, près du Ménil-le-Roi, juste sous le pont de l'A14. Elle connaissait le coin. Elle y avait déjà visité la Villa Sapen, un manoir paumé en pleine forêt, surnommé le bordel allemand, parce qu'il avait été une maison close pour les officiers de la Wehrmacht pendant la Seconde Guerre mondiale. Des murs froids qui résonnaient encore des événements sordides qui s'y étaient passés. Mais nulle trace d'un navire à l'époque. Et pourtant, la rive n'était qu'à une cinquantaine de mètres à travers la forêt. Cette fois, pas besoin de mettre son vélo dans un train. Romy avait pédalé tout du long, à peine 20 minutes de chez elle. Leggings noirs, baskets confortables et soutien-gorge de sport pour bien maintenir les seins. Elle avait des implants, mais il lui faisait mal lorsqu'elle partait dans des randos cross s'il n'était pas bien soutenu. Et rien ne pouvait lui résister. Romy n'était pas une froussarde, ni face à l'effort, ni face au défi. L'un comme l'autre ne se présentèrent pas cette fois. Rien qu'une petite côte facile, et elle roulait au ralenti sur le chemin de halage en guettant la berge au-delà des arbustes. Idéalement, elle aurait adoré emmener René dans ses virées, être cette fille aventureuse avec un chien, un cliché romanesque en somme. Mais René avait 1000 ans, au moins, et l'urbex n'était pas pour les chiens. La carcasse se profila un peu après le pont, et Romy estima qu'elle ne devait justement pas être loin de la Villa Sapen. Elle avait lu que les officiers nazis s'y rendaient en bateau, même si celui qu'elle s'apprêtait à investir n'avait certainement rien à voir avec cette histoire. Elle sortit la chaîne de son sac à dos et attacha son VTT de cross-country à un peuplier. La paye de son petit boulot de l'été dernier était passée dedans et pour rien au monde, elle n'aurait voulu se le faire piquer. Puis chercha un accès praticable. Avec ce qui flottait, la principale difficulté, c'était de parvenir à monter à bord. Sur le Discord d'Urbex, où Romy avait trouvé l'info, on parlait d'un bateau. Mais c'était en réalité une péniche. Une grosse, avec deux ponts. Pour le transport de véhicules, devina Romy. Elle gîtait par le bâbord, du côté de la berge, ce qui serait plus pratique pour y grimper. La peinture s'écaillait, mangée par la rouille, et le morceau de coque que Romy pouvait distinguer portait une chevelure sèche qui témoignait de l'ancienneté du dernier entretien. La péniche avait fait plus que son temps, et si elle était échouée là, c'était probablement parce que son armateur ne pouvait plus rien en faire. Le monde était une décharge pour les hommes. Ce n'était pas nouveau. Romy se sentait excitée. Elle adorait les minutes passées à dénicher un accès. C'était le moment où rien n'était encore fait. Le site pouvait toujours se soustraire à son regard. Et si elle parvenait à le faire céder, tout était possible sur ce qu'il recelait. Une pochette surprise géante. Il lui arrivait souvent d'être déçu. Rien que du béton sale sans intérêt. Ni architecture surprenante, ni graffiti sympa. Mais parfois c'était le pied, un labyrinthe dans lequel se perdre. Romy pouvait se sentir minuscule dans un monstre d'acier, presque une impression de peur, du genre un peu désagréable et en même temps stimulante, comme dans les manèges à sensations. Ces lieux étaient les témoins muets du passé industriel des hommes. Il arrivait même qu'il y reste des traces concrètes, vieux meubles ou statues, et dans un ancien sanatorium, Romy avait trouvé des dossiers médicaux oubliés avec des radios de poumons à foison. Elle les avait étudiés méticuleusement, en se demandant à quoi avaient ressemblé les vies de ces malades. Romy ignorait pourquoi l'urbex lui plaisait tant. C'était plutôt singulier, et, pour sexiste que ce soit, plutôt un truc où on croisait essentiellement des mecs. La plupart y faisaient des photos, mais ça ne l'intéressait pas, elle. Tout était gardé sous son crâne, et c'était bien ainsi, juste des souvenirs. Bon, parfois, elle croquait une perspective, ou seulement un détail qui la saisissait. Mais la plupart du temps, elle ne sortait même pas son matériel de dessin. Sa mère n'aimait pas ça. Elle avait toujours peur pour elle. Il faut dire qu'une fille seule, dans des lieux isolés, ce n'était pas des plus prudents, surtout avec les histoires horribles qu'on entendait. Mais Romy ne pouvait s'empêcher de vivre. Elle était vigilante et ne partait jamais sans son taser, un des derniers cadeaux que lui avait fait son père avant de mourir. Un bon coup de ce machin dans les noix « Et tu seras peinarde !» avait-il dit en riant. C'était l'époque où il ne pouvait déjà plus rire sans grimacer de douleur. Romy ne faisait pas encore d'urbex, mais elle avait souvent des problèmes à l'école. Voilà ce qu'il me faut, dit-elle en remarquant un arbre dessouché qui n'était retenu que par le bastingage de la péniche et qui formait une arche depuis la terre ferme. L'angle était correct et le fût assez large. De quoi marcher dessus? Romy joua les écureuils et remonta le tronc en enjambant les branches jusqu'à atteindre le pont principal. Il avait l'air assez solide. Elle descendit prudemment et posa d'abord un pied pour tâter avant de basculer tout son poids. C'était encore costaud. La péniche avait un pont principal et un plus étroit au-dessus. Les deux servaient à stocker des véhicules et le poste de pilotage se trouvait en haut, à l'arrière. C'était par là que Romy voulait commencer. Elle n'était pas la première à grimper à bord, constata-t-elle rapidement. Un tag, Gizmo, était inscrit à la bombe en gros sur une poutrelle qui soutenait le pont supérieur.
C'est con comme nom, Gizmo. T'es censé avoir un blas qui claque quand tu t'affiches partout, non?
Romy traversa la coursive latérale en faisant attention où elle marchait et gravit doucement l'échelle qui desservait le poste de pilotage. L'intérieur était sans intérêt, déjà entièrement nettoyé par les plus vandales, les plus rapides, ce qui agaça Romy. Le principe de l'urbex était justement de ne rien emporter ni de dégrader les lieux. La vue sur la Seine n'était pas mal en revanche. Alors elle posa son derrière sur le siège moisi du pilote et elle prit son temps pour scruter l'eau grise. Le débit était énorme quand on y pensait. Toute cette flotte, jour comme nuit, depuis des milliers d'années. On parlait sans cesse de la pénurie de matières premières, du manque de ressources naturelles que l'homme avait épuisées, mais ce fleuve, lui, ne se posait pas de questions. Et il débitait son cours, inlassablement. Des déchets flottaient à la surface, nombreux. Par endroits, ils s'aggloméraient et formaient des îlots entourés d'une auréole bleutée de produits chimiques. Après tous ces efforts, ces mesures écologiques, cette prise de conscience tant espérée, on en était encore là. La planète était dans un sale état. L'humanité était dans un sale état. Le réchauffement climatique avait foutu un sacré bordel.
Nous avons foutu un sacré bordel, corrigea Romy in petto.
Des pays vidés de leurs richesses, rendus invivables par des modifications brutales du climat. Des flux migratoires colossaux qui avaient engendré des tensions aux frontières, un euphémisme. Romy adorait ce mot parce que depuis qu'elle l'avait appris, il lui semblait que les journalistes et politiciens ne parlaient qu'en euphémisme. Des discordes entre les nations qui s'affrontaient sur la répartition de ces migrants. Et c'était encore au détriment des plus pauvres. On connaissait la chanson. Les pays dits riches avaient bien vécu, s'étaient développés, et ceux qui morflaient le plus désormais, c'était ceux qui aspirent à en faire autant, mais ne le pouvaient pas. Sauf que l'économie moribonde des nations riches ne reposait plus que sur de la dette, l'angoisse de tout perdre. Et on se crispait sur ce qu'on avait pour ne pas avoir à le partager. Les gens devenaient égoïstes, sourds à la détresse des autres.
« Pourquoi voulez-vous qu'on ouvre nos frontières à des inconnus alors qu'on n'a déjà plus de quoi vivre pour nous ?»
s'écriaient les électeurs dans les urnes. Ils estimaient ça d'autant plus injuste qu'eux-mêmes n'avaient pas bénéficié de ces prétendues richesses. C'étaient les générations précédentes qui s'étaient gavées. Eux n'héritaient que des ennuis et du doigt tendu dans leur direction. Et pendant ce temps, des foules s'amassaient aux frontières où on avait dû envoyer l'armée pour tenir. Romy avait honte, y compris d'elle-même, pour n'avoir aucune solution. Elle détestait son époque. On ne parlait plus que des problèmes. Comment stopper les migrants? Comment maintenir l'économie du pays? Comment refaire de la place à l'homme là où l'intelligence artificielle occupait l'espace? Comment recréer de la richesse? Ça n'arrêtait pas. Chaque jour, on se demandait quel pays allait envahir quel autre le premier au nom de sa survie alimentaire. Le bal des hypocrites avec ses politiciens qui se rassemblaient tout le temps officiellement pour trouver des solutions alors qu'on savait très bien que ça n'était que de la façade. Gagner du temps, des électeurs, mais des solutions, ils n'en trouvaient aucune. En existait-il seulement? Ne fallait-il pas se rendre à l'évidence? La fin d'une ère, de nos civilisations. Et il y avait également le taux de natalité qui s'effondrait dramatiquement. La fertilité n'avait jamais été aussi basse. Ah oui, ça c'était un des sujets de prédilection des médias. La fertilité déplorable, à cause des saletés qu'on avait relâchées dans l'air, de la bouffe qu'on ingérait, de nos fringues, de nos modes de vie. Bref, à cause de tout en fait.
Et parce que les jeunes ne voulaient plus faire d'enfants, bien sûr. C'était la faute des jeunes.
Mais tu m'étonnes. Vous avez vu les perspectives? Non mais regardez.
Le monde ressemblait à un ballon trop gonflé, couturé de partout, et dans lequel on continuait de souffler, en se demandant laquelle de ses plaies allait céder la première.
Je suis joyeuse, ça fait plaisir, ironisa Romy.
Elle adressa un clin d'œil à la scène, puis quitta le siège du pilote. Elle redescendait de l'échelle lorsqu'une voix la surprit et manqua à la faire trébucher.
Tu sais pas lire ?
Le ton n'était pas aimable. Trois gars se tenaient à l'avant, autour d'une trappe ouvrant sur les entrailles de la péniche. Le dernier en sortait à peine. Ils avaient à peu près le même âge que Romy, soit 20 ans. Look de branleur, pas celui un peu équipé de l'urbex, mais plutôt basket voyante, fringue flashy. Le voyant interne de Romy s'alluma direct.
« En merde probable. »«
Lire quoi ?» demanda-t-elle sans se démonter. Elle tenait une chose pour acquise dans ce genre de situation. C'était qu'il ne fallait jamais montrer sa peur. Pas à trois connards. La peur sur la meute inspirait la connerie. C'était un détonateur.
« T'es aveugle ou quoi ?»
fit celui qui menait la troupe. Un blond aux cheveux trop longs sur la nuque, aux yeux rapprochés et avec un gros grain de beauté sur le front, juste au-dessus du sourcil.
« Ah ! C'est toi, Gizmo ? Bravo pour le nom, hein, ça claque !»
C'était plus fort qu'elle. Romy savait qu'elle aurait dû se taire. Mais parfois, les paroles jaillissaient de sa gorge avant même qu'elle ait pu les filtrer. Trop d'années de frustration à ravaler ses colères, à encaisser. C'était comme si son cerveau avait épuisé ses réserves de tolérance et de retenue. Un des gars ricana, ce qui déplut fortement au leader, qui le toisa avec méchanceté avant de se retourner vers Romy. Celle-ci étudiait sa position. Ils étaient clairement les plus proches du tronc pour quitter le bateau. Elle allait devoir se rapprocher d'eux. Mieux valait ne pas attendre. Et d'un air aussi sûr que possible, elle remonta la coursive le long du bastingage.
« Tu te fous de ma gueule, c'est ça ?»
insista le plus nerveux des trois.
« Ne ralentis pas.
Depuis quand un compliment, c'est un problème ?»
Elle n'aimait pas la façon dont les deux autres la regardaient. Le premier ne décrochait pas de ses seins. Et l'autre la dévisageait avec un drôle d'air. Elle avait laissé le taser dans le sac sur ses épaules. Il était un peu tard pour s'arrêter et le prendre. Il le verrait aussitôt et ça risquait d'envenimer les choses. Romy avait parcouru la moitié du chemin lorsque la grande gueule fit plusieurs pas vers elle, suivie par ses deux roquets.
« T'es toute seule ?»
demanda-t-il.
« Mes potes sont dans la ville à sa peine. Tu veux que je gueule pour qu'ils rappliquent ?»«
Mytho !» fit celui qui reluquait sa poitrine. « Y a personne à la villa !»
Le rythme cardiaque de Romy s'emballa. Sa gorge s'assécha. Elle ne le sentait pas.
« En merde probable !»
se mit à clignoter sévèrement sous ses paupières. Il fallait atteindre le tronc le plus rapidement possible. Elle regrettait amèrement le legging qui moulait ses formes. Le chef de meute fit un bond et se positionna juste devant le passage, là où l'arbre écrasait la rambarde.
« T'as pas peur, toi, hein ? »
lâcha-t-il d'un ton qui devenait vicieux.
« C'est bon, lâche-moi !»
Elle arrivait juste devant lui. C'était l'heure de vérité. Soit il se poussait, soit...
« C'est mon bateau, » dit-il. « Mon territoire, mes règles !»
Le cœur de Romy battait la chamade, et il devenait de plus en plus difficile de ne pas se trahir. Sa respiration s'était accélérée, et elle sentait que ses jambes se remplissaient de coton.
« Ok, j'ai pigé, je reviendrai plus. » « Maintenant, laisse-moi passer. D'abord, faut payer ce que tu me dois. »
Il tendit la main vers son visage, pour lui attraper le menton. Mais Romy recula d'un pas.
« Hé, stop ! Pour qui tu te prends ?»
Il écarquilla les yeux, entre surprise et amusement. Romy ne tint plus et se mit à halter. Pourtant, elle s'immobilisa bien droite et le fixa du regard avec une haine qui le transperça. Tout ce qu'elle avait encaissé pendant l'adolescence, elle avait appris à force de coups, de pleurs, de rage, à le transformer. Elle avait mis plusieurs années à y parvenir. Qu'elle ait peur ou soit humiliée, elle ne baissait plus les yeux. On pouvait tout lui dire. Elle en transformait une partie en combativité. Le reste lui perçait le cœur, mais ça, elle avait l'habitude. Le chef afficha un sourire détestable. Lui savait ce qui allait suivre, et ça lui plaisait.
Hé, Kill, attends! « Je la connais, cette meuf !»
fit celui qui la fixait d'une curieuse manière depuis le début. Ça y était, sous
soupira Romy intérieurement. Il n'avait pas fallu longtemps cette fois.
Tu connais le nom de cette beauté? Vas-y, balance.
Le gars qui l'avait reconnu s'approcha.
C'est pas une meuf, Kill. Putain, mais oui, c'est le cum qui s'est fait opérer, c'est en transe.
Il éclata d'un rire gras qui le plia en deux.
Merde! Kill a failli se faire en transe, putain!
Le troisième n'en revenait pas, et le Kill en question fixait Romy abasourdi.
C'est vrai? T'es un mec?
Romy serra les dents. Ne pas leur offrir ça. Cette fois, elle le repoussa du bras et grimpa sur la rambarde pour accéder au tronc. Encore stupéfait, Kill ne broncha pas et la laissa passer.
Un enfoiré trans, sérieux ?
Insista-t-il.
Allez vous faire foutre !
Répliqua Romy en descendant lentement. Kill la regardait faire, l'air complètement sous le choc, comme si son esprit ne parvenait pas à faire le lien entre les données. Jolie fille, attirance, homme, transsexuel. Ça ne matchait pas dans son processeur personnel. Après 3 mètres, Romy s'immobilisa pour faire passer son sac à dos devant elle et l'ouvrir. Elle prenait un risque. Elle lui donnait une chance de se ressaisir et de lui jouer un sale coup. Secouer le tronc, par exemple, pour qu'elle chute de 5 ou 6 mètres dans l'eau croupie. Elle sortit sa corde, fine mais solide, et l'enroula autour du fût. Fit un nœud rapide et reprit sa descente en s'y cramponnant. En haut, un des gars riait encore aux éclats, tandis que Kill fixait Romy avec ce qui devenait petit à petit de la haine.
« Sale pute de transe !» hurla-t-il enfin.
Romy haussa les sourcils. Pas très original. Au moins, il ne l'avait pas attaqué physiquement. Mais il insista.
« T'es une sous-merde, t'entends ? Sous-homme !»«
Tu l'auras cherché, » murmura-t-elle. Une fois sur la berge, elle tira de toutes ses forces sur la corde, et l'arbre, qui était l'unique voie de sortie, bascula dans le vide et s'effondra dans l'eau, au pied de la péniche.
« Qu'est-ce qu'elle a fait ?»
s'écria une voix catastrophée.
« Mais comment on va descendre ? Putain, Kill, comment on va descendre ?»
Romy les toisa et brandit son majeur dans leur direction.
« Tenez, ça c'est pour le respect, c'est cadeau. »